Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour le premier numéro de Tambouille pour la saison 2018-2019. Au service aujourd'hui, Adèle Comellas pour la salle de spectacle du Pays de Conches. Bonjour Adèle.
Bonjour Leslie.
JC. Bonjour JC.
Bonjour.
Et moi-même, Leslie Bertrand pour la médiathèque. C'est parti pour Tambouille, la marmite culturelle à la sauce du Pays de Conches.
The menu, please.
Alors, au menu, pour la rentrée, enfin, on devrait dire une entrée, puisque nous aurons dans le studio avec nous Valérie Fleureau de la librairie Bouillon de Lecture à Conches, qui viendra nous faire la rentrée littéraire, donc plein de hors-d'œuvre et de choses à déguster. En plat du jour, nous dégusterons la présentation de saison de la salle de spectacle du Pays de Conches. En surprise du chef, nous reviendrons sur la rentrée littéraire en vous dévoilant quelques titres qui nous ont marqués. Et je crois que Leslie et Valérie se sont régalés pour cette rentrée. Aujourd'hui, pas d'un ratable de la médiathèque, mais une fête de la pomme et nous retrouverons Jérôme Pascaud. J'espère que ce menu vous met en appétit. C'est parti.
À gauche sur votre écran, l'empereur de la cuisine industrielle, le Napoléon du prêt-à-manger...
Valérie Fleureau, Bouillon de Lecture, librairie à Conches.
Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors bon, Valérie, vous êtes libraire du coup à Conches. La librairie s'appelle Bouillon de Lecture. Et donc tous les ans, à l'automne, on a la période de la rentrée littéraire qui coïncide avec un petit peu avant la remise des prix littéraires. Et donc on vous invite aujourd'hui pour discuter de ces nouveautés, certaines ont déjà été lues, pour savoir ce que vous en pensez, ce que vous nous conseillez. Et moi je voudrais au départ revenir sur le travail en fait en librairie, le travail de libraire pour cette rentrée littéraire. Donc quelle est votre organisation, comment vous choisissez les livres que vous mettez en avant à la librairie, que vous commandez également, parce que du coup vous ne les savez pas tous. Je crois que cette année c'est 587 romans je crois qui sont sortis.
Tout à fait.
Donc effectivement... Les 600, enfin les presque 600 à la librairie, ça va faire beaucoup. Donc comment s'opère ce choix et comment vous les mettez en avant ?
Alors donc le travail commence au mois de juin en contactant les différents éditeurs pour avoir leur première sélection qu'ils m'envoient et que je lis durant l'été pour découvrir des pépites et vous les présenter à la rentrée.
Voilà. D'accord. Et du coup, vous en avez à peu près combien à chaque fois à la rentrée, en présentation en tout cas pour les clients ?
Bon, une petite trentaine. Hein.
Petite trentaine, ouais, mais choisie.
Oui, choisie, tout voilà. À fait.
Donc, ce sont des titres qui sont choisis, ils sont validés en amont.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Alors, ces romans, il faut les lire. Combien de temps à peu près vous y consacrez ? J'imagine que ça prend un temps fou.
Eh bien, exactement. Donc, entre 4 et 5 heures par jour, les bons jours. Voilà.
D'accord.
En général.
Et du coup, le conseil aux lecteurs, aux lecteurs qui voudront acheter un roman de la rentrée littéraire, si certains veulent le futur Goncourt, le futur Renaudot, vous les conseillez comment ?
Ah bah c'est complètement subjectif, un livre, donc c'est difficile de promouvoir des futurs Goncourt. Donc après, moi, je présente mes coups de cœur.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Bon, cette année, vous en avez eu ?
Oui, quelques-uns.
Oui,
très bien. Des nouveautés et puis des auteurs confirmés.
Est-ce que, en dehors de vos choix, est-ce que vous savez ce qui va être demandé à tout prix ? Est-ce qu'on se fie un petit peu aux demandes des clients ou est-ce qu'on en apprend à les connaître, j'imagine ?
Oui, voilà. Ben, comme Émilie Nothomb, par exemple, qui est à chaque rentrée, on n'a pas besoin de faire de publicité par rapport à ses livres. Par défaut... Elle est déjà chez la grande librairie, donc présentée. Donc les gens la connaissent. Après,
Est-ce qu'on vient par hasard en se disant je vais trouver un livre pour la rentrée, ou est-ce que la télévision joue un vrai rôle de relais pour présenter les auteurs, ou la rentrée, ou la radio, ouais, etc. Est-ce qu'on entend parler d'un livre, ou est-ce qu'on pousse la porte comme ça en se disant qu'est-ce que Valérie va me conseiller cette année?
Alors, donc il y a deux types de lecteurs. Effectivement, alors, la télévision, ce n'est pas vecteur de promotion de livres, mais c'est la presse écrite. Essentiellement.
D'accord. Ouais. Même pas la grande librairie.
Si aussi, la majorité, c'est la presse écrite quand même.
D'accord.
Ouais. Ouais. Et puis ceux qui me demandent systématiquement ce que j'ai aimé et que je conseille.
Et moi, je le vois à la bibliothèque, en fait, certes, il y a des noms aussi qui sont vendeurs. Le Amélie Nothomb, effectivement, le Maïlys de Kerangal cette année, il y a des noms, on ne peut pas passer à côté, les lecteurs vont les demander. J'imagine, Valérie, pour vous, c'est
tout
pareil à la librairie. Donc,
tout à fait.
Donc voilà. Et du coup, pour les mettre en avant à la librairie, vous faites une petite scénographie, pas du tout?
J'affiche mes coups de cœur et je vais faire une soirée littéraire présentation de mes coups de cœur.
D'accord. Donc, voilà. Quel jour?
Il n'est pas défini. D'accord. À ce jour.
On attend la date, on la transmettra après.
D'accord. Bon, écoutez, c'est très bien. Moi, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique. Et puis après, on reviendra justement et on évoquera avec vous, Valérie, les coups de cœur. Alors, à la fois de Valérie pour la librairie et les miens pour la médiathèque. Il y a eu quelques lectures et il y a eu « On vous en dira un peu plus ». On vous racontera aussi, on vous lira quelques passages en espérant vous donner envie de les lire et de pousser la porte soit de la librairie, soit de la médiathèque. Donc tout de suite, un petit morceau de musique.
Je me souviens du bout de la table comme d'un fragment d'éternité. C'est Noël, j'ai 4 ans, je suis le plus jeune de la famille. À l'autre bout, en face de moi, mon arrière-grand-mère est figée. Elle n'entend plus que des yeux et semble sourire sans béquille. Entre elle et moi, il y a les grands, qu'elle continue d'appeler les jeunes. Ils parlent vite, ils parlent fort, je ne comprends pas tout ce qu'ils se disent. Tonton Daniel a l'air d'être drôle, il fait des blagues quand on déjeune. Voudriez voir comme il est fier quand sa femme rit à ses bêtises. Et à ma mère, un peu plus loin, qui parfois jette un œil sur moi. Elle trouve toujours une bonne excuse pour venir jusqu'au bout de la table. Une viande un peu dure à couper, un pichet d'eau trop lourd pour moi. À cette époque, j'étais un roi, assis sur un trône éjectable. Le bout de la table n'est pas très loin, mais il s'éloigne. L'arrière-grand-mère me manque un peu, et mon grand-père a pris sa place. Ses mains voyagent, elles papillonnent, prennent des détours quand elles se joignent. Personne ne semble s'en rendre compte, à part peut-être le temps qui passe. Maintenant que je comprends ses blagues, tonton Daniel me fait marrer. Et je crois qu'il n'est vraiment heureux que quand sa femme rit à pleines dents. Ça se fend la gueule, ça boit des coups, tout le monde trinque à la légèreté. Et pendant ce temps, le bout de la table s'efface derrière un tremblement. J'ai 35 ans, mon fils a pris la place du roi. En face de lui, je vois sa grand-mère faire de ma mère une vieille dame. Mais c'est la vie, comme dit Daniel, il faut garder le sens de la joie. Pourtant, parfois, l'humour d'un homme ne dure que le temps d'un rire de femme. J'ai 60 ans et l'intention de profiter de chaque image. Mon petit-fils au bout de la table qui galère avec son steak. Ma mère qui livre un combat contre un pichet trop lourd pour son âge. Il y a le bout de la table qui m'attend, mais j'ai plus peur de me battre avec. Je me souvenais bien de cette place comme d'un fragment d'éternité. Je suis le plus vieux, mais qu'importe l'âge, je suis bien. C'est Noël. À l'autre bout, en face de moi, un petit garçon semble très intrigué par mes mains qui voyagent malgré elles. Entre nous deux, il y a les jeunes qui parlent fort, qui parlent entre eux. Il y a un petit neveu qui a l'air d'être drôle, il fait marrer toute la famille. Ce brouhaha d'éclats de rire que je n'entends plus qu'avec les yeux, je vais continuer d'en profiter et je vais sourire sans béquille. Ça fait 10 ans que je m'assois ici et je m'y sens bien à chaque Noël. Je crois bien que j'ai passé toute ma vie à jouer aux chaises infidèles. J'ai mis une vie pour m'asseoir là et prendre conscience du temps qui passe. Il faut une vie pour s'asseoir là et accepter de céder la place.
On vient d'entendre Gauvrache, le bout de la table, et on aura le plaisir de l'accueillir à la salle de spectacle cette année.
Jacques.
Ouais.
Je voudrais pas me mêler, mais j'ai l'impression que ça sent brûlé, non?
Ah bon? Non.
Ah si. Si, si.
Bon, c'est l'odeur normale, ça?
Donc on continue avec Valérie Fleureau pour la librairie Bouillon de lecture à Conches. Et donc cette fois-ci, maintenant, on va vous présenter quelques nouveautés de la rentrée littéraire, en fait, qui sont des plus ou moins des coups de cœur pour chacune d'entre nous. Et donc Valérie, je vous laisse le soin de présenter là votre premier.
D'accord. Alors je vais vous présenter Cette maison est la tienne, Fatima Farine Mirza. Donc c'est un premier roman, c'est une auteure américaine d'une trentaine d'années. Et voilà, donc c'est l'histoire d'une famille indienne qui vit aux États-Unis, en Californie, et c'est une famille indienne traditionnelle, musulmane chiite, modérée. Et c'est l'histoire donc des parents et des 3 enfants en mélangeant les 2 cultures, donc indienne et américaine. Et voilà. Donc, c'est l'histoire aussi de cette famille avant le 11 septembre et après le 11 septembre, ce qui a changé pour eux. Donc, je vais vous lire un petit extrait. Donc, ça se passe au moment du 11 septembre. Ils étaient restés là, tous les 4, devant les images qui tournaient en boucle, à écouter les présentateurs répéter sans arrêt les mêmes phrases. Un terrible événement s'est produit. Baba s'était assis par terre, les tours et les volutes de fumée noire. Un autre présentateur disant que les avions ont été détournés de leur route. On va aller au lycée, avait demandé Huda. S'il ne voulait pas être en retard, il fallait partir. Baba n'avait rien répondu. Il était resté là des heures à regarder. Chaque fois que l'avion apparaissait, un simple trait noir sur l'écran, on n'arrivait pas à y croire. Et puis ça se produisait encore et encore. Le président déclara alors qu'il s'agissait, selon toute probabilité, d'un acte terroriste. Alors, donc, c'est l'histoire d'une famille, 3 enfants, 2 parents, et chaque personnage raconte comment il a vécu ce 11 septembre, et après cet 11 septembre. Donc, voilà, c'est un très beau livre. Chaque personnage, donc, il y a 3 enfants, 2 filles et un garçon, et les parents qui sont bien décrits.
Qu'est-ce qui vous a plu? Le ton, l'histoire?
L'histoire. L'histoire parce que donc c'est une famille de musulmans modérés. Ils se sont sentis attaqués après ce 11 septembre. Donc le père, le baba, avait demandé à ses filles de porter le hijab quand elles avaient 7 ans. Et là, il leur demande après coup de ne plus le porter parce que le regard a changé sur elles pour pas qu'elles soient stigmatisées. Et chaque personnage le vit différemment aussi ce 11 septembre. Mm-hmm. Il y en a une qui est ado, donc avec
tout la ce fragilité qu'on, que la ça fragilité. Suppose.
Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment 5 beaux personnages.
D'accord. Voilà. On met ça dans notre panier, ouais. Dans notre marmite.
Dans le panier. Moi, je vais vous présenter un livre qui s'appelle « Tenir jusqu'à l'aube » de Carol Fives. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une jeune mère qui est célibataire, donc avec tout ce que ça suppose. Elle travaille en freelance. Et en fait, au fur et à mesure, autant vous le dire, c'est pas pour le petit pitchoun, mais au fur et à mesure, la vie avec son enfant va lui prendre tellement de temps qu'elle ne pourra à peine travailler. Et donc, on voit toute sa vie. Et en fait, cette femme-là, elle décide au fur et à mesure de s'offrir une bouffée d'oxygène et de sortir le soir quand le bébé dort. Et donc, elle va toujours... un coup, c'est juste descendre au pied de son immeuble. Après, c'est aller au bout de la rue. Après, c'est aller un peu plus loin, un peu plus longtemps. Et donc, elle prend des risques. On la suit et voilà. Et l'histoire est... Effectivement, ça respire pas la joie. C'est pas hyper joyeux. Mais le livre, moi, je l'ai plutôt aimé. Je vais vous en lire un petit extrait. Elle s'était adressée au service petite enfance de la mairie, mais il n'y avait aucune place en crèche. À peine 10% de place dans cette ville, au vu du nombre exponentiel de naissances, à croire que tous les Parisiens descendaient pondre au soleil, avait finement observé l'employé. D'autres femmes, bien plus prévoyantes, s'y étaient prises des mois avant l'arrivée de l'enfant, dès sa conception. Elle débarquait d'on ne sait où. Et surtout, elle n'était pas salariée. Elle avait insisté, elle avait pourtant fait sa première demande il y a plus d'un an. Et elle était seule. N'avait pas de famille ici, aucun mode de garde. Comment pouvait-elle continuer à travailler dans ces conditions ? Oh, quand on est débrouillarde, un enfant, ça ne coûtait pas si cher. Il suffisait de préparer les repas de soi-même, d'éviter les plats industriels, trop gras, trop cher. Et puis elle avait désormais tout le loisir de faire le marché, trouver des produits frais, courir les vide-greniers, les Emmaüs. On y trouvait des vêtements pour rien en fouinant un peu. Des petites doudounes, des pantalons adorables et même des bottes. L'employé y avait déniché de ce week-end une paire de chaussures fourrées pour sa petite dernière. À peine 5 euros. Alors, je vous lis pas tout le chapitre, c'est dommage, moi j'ai bien aimé. Mais en fait, voilà, ça résume bien l'ambiance qui en découle. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les difficultés d'une mère célibataire qui se retrouve à avoir des murs en face, à ne pas pouvoir trouver de solution, même de garde là pour son enfant. Le père, autant vous dire qu'il est complètement absent. Le grand-père aussi est un peu rabat-joie avec le pitchoun. Il y a une différence de génération, ça marque. Mais effectivement, on la suit dans sa vie et dans ses excursions nocturnes. Et voilà, un petit rebondissement à la fin qui m'a donné envie de vraiment le finir, de tourner les pages, quoi. J'ai bien aimé, à conseiller. Valérie, est-ce que vous en avez un autre ?
Oui, alors c'est pareil, c'est un premier roman. Sergent Papa de Mark City. Mark City, c'est un auteur interprète, voilà. Et donc, c'est l'histoire d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a abandonné son fils à l'âge de 3 ans. Donc, il est parti en lui laissant dans la chambre des vinyles et une guitare électrique. Alors, il n'est pas parti pour avoir une vie meilleure ou être comédien de quoi que ce soit. Non, il est parti parce qu'il ne s'entendait plus avec sa femme et voilà. Et il a laissé son enfant. Et ils sont toujours en contact à travers la musique, parce que ce jeune homme, Antoine, est musicien, professionnel, reconnu. Donc son père se rend toujours à ses concerts. Voilà, mais ce sont des contacts froids, bien que le père essaye de revenir un peu, de renouer avec son fils. Voilà, donc...
C'est sur la relation père-fils, oui, voilà, père-fils, à travers le temps, ouais, et comment on grandit, ouais, sans, voilà, un père ou comment
aussi parce, oui, que son fils est excessif dans sa vie. Comme l'a été son père dans l'alcool, lui, c'est plus la drogue. Et un jour, ce père veut renouer avec son fils. Donc, bon, déjà, sa carrière a redémarré en tant que comédien. Il a invité son fils à voir la pièce, voir sa pièce. Bon, son fils n'a pas trop compris, il n'est pas théâtre. Bon, il est parti avant la fin, en laissant quand même à son père un message d'encouragement. Mais ce père veut aller plus loin, veut reconquérir ce fils parce qu'il a rencontré aussi une jeune femme avec un enfant de l'âge de 3 ans. Et en fin de compte...
Il y a une projection qui se,
voilà,
fait.
Voilà, il demande la permission à son fils d'élever cet enfant.
Comme là, il ne l'a pas fait avec son propre fils. Ouais.
Voilà, et c'est vraiment merveilleux. Un très, très... beau personnage.
D'accord. C'est un peu tristoun, hein, la rentrée. Il y a un petit nuage de tristesse, là, mesdames. Avez-vous quelque chose d'un petit peu plus... En couleur à nous proposer.
Moi,
même
non.
Si je pense qu'effectivement on retrouve cette atmosphère, mais c'est pareil dans le spectacle vivant, hein, je vous rassure. C'était juste voilà, parce que les deux sujets qu'on vient d'aborder sont quand même des sujets assez lourds.
Ouais. Je crois qu'ils sont un peu, pas tous comme ça, mais en tout cas moi ceux que je vais présenter, ils sont...
Ben, moi celui qu'il me reste à vous présenter, il n'est pas très gai non plus, c'est celui d'Eric Fotorino, donc bien connu, 17 ans, donc c'est La quête de sa mère. Hein.
D'accord.
Parce qu'à 17 ans, on n'est pas mature, il s'est séparé de sa mère, il a été violent avec elle, pas très gentil avec son père adoptif non plus. Donc maintenant, il a 50 ans. Donc pareil,
on réfléchit.
Avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, c'est son excuse, c'est qu'il avait 17 ans. Voilà, un très beau roman.
Est-ce que ça suffit pour tout excuser,
non,
c'est
mais
ça
voilà, tout à fait. Après, il va essayer de... Il reconstruit une relation avec sa mère, voilà, qui est très belle. Parce qu'il va revenir sur ses... C'est un enfant qui est né sans père. Hein. Donc, il va revenir sur son lieu de naissance, Nice, avec sa mère, et déambuler dans les pas de sa mère de l'époque. Parce qu'elle était mineure, elle avait 16 ans, 17 ans quand elle l'a eu aussi. Donc c'était
un voyage intime.
Oui, voilà. Mmh. Et c'est très très beau. Très beau livre. Voilà.
D'accord.
Pour
Leslie.
Ma sélection.
Eh bien, moi je continue dans la joyeuseté. Non, en fait, je voulais vous présenter. Moi, il me reste deux aussi à vous présenter. Bon, on va faire le classique Amélie Nothomb.
De la rentrée.
De la rentrée, effectivement. Alors cette fois-ci, on est toujours sur la parentalité. Cette fois-ci, c'est la relation père-fille. Et en fait, bon, on le saura très très vite. Hein. C'est un père qui n'aime pas sa fille, du coup. Valérie, vous l'avez lu, hein, le Amélie Nothomb.
Tout à fait.
Donc c'est une relation difficile entre le père et sa fille. Très très difficile, voire quasi inexistante, en fait. Et donc, moi, j'ai bien aimé aussi... Il est bon, c'est une distraction. Hein, le Amélie Nothomb, il se lit en très très peu de temps et voilà. Moi, j'attends en fait tous les ans avec impatience pour voir un peu à quoi ça ressemble.
Je vais vous lire. On est beaucoup dans ce cas-là.
Ben oui. Il y en a beaucoup aussi qui n'aiment pas Amélie Nothomb, mais bon. Je vais vous en lire un petit passage. La petite fit très vite ses premiers pas, comme Claude, assis sur le canapé, compulsé des dossiers. La mère, embusquée derrière la porte du séjour, dit à l'oreille de l'enfant :« Marche jusqu'à papa. » Et puis Sen mit un pied devant l'autre. Avec la vaillance d'un soldat et, arrivé devant son père, poussa un cri de joie en s'applaudissant elle-même. « Tu ne vois pas que je suis occupée ?» dit-il à l'enfant sonne d'un ton rauque. « Mais elle marche !» protesta Dominique. « Bravo, c'est bien !» dit-il, comme il aurait sommé de lui ficher la paix. Le soir même, Claude déclara à sa femme qu'il voulait un autre enfant. « Oh, il n'en est pas question !» répondit-elle. « Pourquoi ?»« Comment cela, pourquoi ? T'as oublié combien j'ai souffert ? Plus jamais je ne tolérerai une douleur pareille. » Elle se garda d'ajouter que, vu son absence de fibre paternelle, elle voyait encore moins pourquoi risquer à nouveau de mourir. Il entendit que sa décision était sans appel. Par la suite, elle réfléchit à sa demande incompréhensible. À l'évidence, il n'aimait pas sa fille. Était-il jaloux d'elle ? Il semblait que non. Il aurait pu éprouver cette jalousie si Dominique lui avait témoigné moins d'amour, mais c'était lui qui était moins tendre que jamais. Il avait l'air déçu d'Épicène. Un jour, elle lui demanda s'il aurait préféré un garçon. « Absolument pas, répondit-il. » Il ne mentait pas, c'était évident. « Alors comment peut-il être déçu par notre fille » s'interrogeait-elle. Épicène avait toutes les qualités qu'on pouvait rêver chez son enfant. Affectueuse, belle, intelligente, vive, joyeuse. S'il ne l'aime pas, il n'aimera aucun autre enfant, comprit-elle. Dominique pensait souvent au gentil garçon dont elle était tombée amoureuse, 4 années auparavant. Qu'avait-il pu lui arriver pour qu'il change à ce point ? Elle ne doutait pas que la métamorphose provint de son travail. Tant de responsabilités, tant d'angoisses, avec à la clé une réussite professionnelle prodigieuse. Il n'y a rien à regretter, songeait-elle. Il faut se réjouir de son succès dont il est si fier, quoi qu'il en coûte. Il a voulu tout ça et il m'a choisi pour être à ses côtés. Elle s'isolait parfois avec le flacon de Chanel numéro 5 qu'elle n'osait plus porter et respirait le parfum du temps où l'amour l'enivrait. Je ne vais pas plus loin. Je vous laisse se découvrir.
Laisse-nous-en un petit peu.
Voilà. J'ai oublié de donner le titre. Donc, c'est le Amélie Nothomb et cette fois-ci, il s'appelle Les prénoms épicènes. Donc, les prénoms épicènes, pour ceux qui ne le savent pas, épicènes, c'est en fait des prénoms qui sont mixtes, qui peuvent être aussi bien portés par le père que par le père. Je suis encore dans le
roman.
Par un homme que par une femme. Et donc, du coup, voilà, vous l'aurez compris, ce sont Claude et Dominique, donc deux prénoms épicènes, qui ont eu une petite fille qu'ils ont appelée épicène, justement. Voilà pour le dernier Nothomb. Et moi, je vais vous en lire un tout dernier, qui en fait est mon coup de cœur. Je crois que Valérie, vous l'avez beaucoup apprécié aussi.
Tout à fait.
C'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Donc là, c'est l'histoire, on va pouvoir...
C'est un premier roman.
C'est un premier roman. Ouais. L'auteur est belge. Donc voilà, avec Amélie Nothomb, la Belgique nous amène des bons auteurs. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est très proche de son frère, donc qui vit avec ses parents. Elle explique, le livre commence très vite en fait, on est très vite dans l'ambiance. Donc elle explique qu'il y a 4 chambres chez elle, donc sa chambre, celle de son petit frère, celle de ses parents et la chambre des cadavres. Donc là, ça met dans l'ambiance. Et en fait, la chambre des cadavres, c'est son père qui est chasseur, braconnier à 16 heures. Et donc, effectivement, elle le décrit comme une personne alcoolique, plus ou moins, qui passe son temps devant la télé, qui pique des colères. Sa mère ne dit rien. Elle la qualifie d'amibe. Et en fait, le petit frère, elle a 11 ans au tout début du livre. Lui en a 6. Et donc, ils sont très proches. Elle le dit elle-même. Hein, du coup, elle l'aime d'un amour presque de maternel. Jusqu'au jour où il va arriver, ils vont assister à quelque chose de très malheureux. Et donc, ça va changer complètement son petit frère. Elle va l'appeler la hyène tout le long du livre. En fait, la hyène s'est emparée de l'âme de son petit frère. Et la noirceur va venir à chaque fois un peu plus loin au fur et à mesure que l'âge qu'il avance en âge. Et donc elle, son objectif, c'est d'inverser tout ça grâce à une envie de remonter le temps, une envie complètement imaginaire, ouais. Voilà, loufoque, mais voilà, c'est son envie d'enfant à 11 ans de protéger son petit frère. Je vais vous en lire un petit extrait, ouais, pas très long, parce que il faut le lire du coup. L'été suivant est arrivé. L'état de Gilles ne s'était pas amélioré. Le vide de ses yeux s'était peu à peu rempli d'un truc incandescent, pointu et tranchant. Ce qui vivait à l'intérieur de la hyène avait progressivement migré vers la tête de mon petit frère. Une colonie de créatures sauvages s'y était installée, se nourrissant des lambeaux de sa cervelle. Cette armée grouillante pullulait, brûlait les forêts primaires et les transformait en paysages noirs et marécageux. Je l'aimais et j'allais réparer tout ça. Rien ne pourrait m'en empêcher. Même s'il ne jouait plus avec moi. Même si son rire était devenu aussi sinistre qu'une pluie acide sur un champ de coquelicots. Je l'aimais comme une mère aime son enfant malade. Son anniversaire, c'était le 26 septembre. J'ai décidé que tout devait être prêt pour ce jour-là. Après, j'ai encore un extrait, mais très très long, donc je ne le lirai pas. Mais vraiment, il faut lire celui-ci. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Je ne sais pas pour vous, Valérie.
Oui, tout ouais. À fait, oui.
Bon, donc, il n'y a plus que nous. Hein.
Ah oui, il n'y a plus que nous.
Il faut qu'on le commande. Hein. Non, mais... Valérie, voilà. C'est bon, il est en stock.
Oui, tout à fait.
Très, très bien écrit, il est intelligent. On a à la fois le regard, la poésie de l'enfance et en même temps, c'est un drame social parce que du coup,
c'est
la
un
famille...
Drame.
Est...
Voilà. C'est vrai. Voilà.
Avec une partie imaginaire, parce que là, pour le coup, dans cette... Enfin, il y a toujours une partie d'imaginaire
pas tant que
dans
ça,
chaque
en fait.
Livre, mais
cet
pièce,
enfant, après
est...
ce drame, cet enfant, ce petit garçon, après ce drame vécu, est devenu un peu psychopathe. Et c'est pour ça que,
voilà,
dans sa tête, il a la tête...
En fait, elle l'appelle la hyène, parce qu'un jour, elle le découvre dans la chambre
ah, non,
des
cadavres. Non,
des cadavres.
Non.
C'est pas
non.
Du tout un spoiler.
Elle va nous spoiler, là.
Ah non, il ne faut pas... Parce... Non, mais on va couper le micro de Leslie. Nous allons commencer par ça. Elle nous a donné envie. Elle nous a donné envie. Nous n'irons pas plus loin. Voilà. Il est disponible également dans les rayons de la médiathèque de Conches.
Nous n'avons plus d'excuses pour se le procurer.
Voilà. À la librairie et à la médiathèque. On peut le trouver, donc arrêtons-nous là et allons donc le lire.
C'est ça.
Sinon, nous pouvons te proposer un programme de nuit, Leslie, où tu le liras en intégralité si tu le souhaites, pour les auditeurs.
Mais en plus, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, il n'est pas si long que ça à lire.
Une heure et demie, deux heures.
Ouais, une heure et demie, deux heures. Bon, deux heures et demie quand même.
Pour des femmes qui lisent plusieurs heures par jour, on est bien d'accord.
Et si on a envie de prendre son temps, on peut prendre son temps de le lire en 6 heures.
Ah bah oui.
Tout à fait.
Un petit extrait musical qui va nous emmener justement vers d'autres horizons, mais qui sont bien la continuité de ce qu'on vient de déguster.
Et merci beaucoup Valérie. On se retrouve peut-être juste un petit peu après parce qu'on a un petit projet en commun pour le panier du mois pour la médiathèque. Et puis du coup, sinon, merci d'avoir été là.
Merci à vous.
Merci Valérie. Merci.
J'ai passé ma vie à te chercher, dans le blanc des yeux par curiosité. J'étais sous la pluie à espérer que tu viennes me parler. J'ai passé ma vie à regarder, ton corps déjà pris, ton air détaché. J'ai d'ailleurs bien vite constaté la force de ton aridité. Mais donne-moi, donne-moi. son impassibilité. Et moi je rue, je fus, je muse, je m'agite, mais je vrille en vol. Pour une pépite, des brindilles, des miettes, des extraits de toi, pour tourner dans un film qui n'existe pas. Et moi je rue, je fus, je muse, je m'agite, mais je vrille en vol. Pour une pépite, des brindilles, des miettes, des extraits de toi, pour tourner dans un film qui n'existe pas. Donne-moi, 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 donne-moi de toi. J'ai passé ma vie à mon tête, ton mélange gris, ton visage ferme. J'aurais bien voulu te débarrasser de ta frigidité. Mais donne-moi, 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 donne-moi de toi. Donne-moi, 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 donne-moi.
D'écouter Adélis avec le titre Donne-moi. Adélis, qu'on aura également le plaisir à retrouver à la salle de spectacle cette année.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va.
Alors, parce qu'il n'y a pas que la rentrée littéraire non plus en cette période de rentrée au mois de septembre. Je te laisse, Adèle, présenter la saison de la salle de spectacle du Pays de Conches, donc la saison 2018-2019. Je ne sais pas si on fera la saison en entier, à mon avis.
Non, je ne pense pas. Je pense qu'on va faire jusqu'à décembre, janvier.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients.
Oui, voilà, il y a déjà pas mal de choses. Donc, on va déjà partir sur cette période. Donc, on ouvrira la saison à la salle de spectacle du Pays de Conches avec la compagnie Les Nouveaux-Nés, et qui viendra sur un récital clownesque qui s'appelle Chansons à risque. Alors, comment vous décrire ? Elle est à tendance espagnole, elle est pleine d'humour, pleine de tics. Lui, il est homme orchestre, ça donne un duo absolument explosif, c'est très drôle. Il revisite les classiques chansons françaises et chansons espagnoles. C'est un très bon moment, c'est ludique, ça se mange tout seul, on va dire. Voilà. Voilà pour le premier spectacle. Ensuite,
c'est le 6 octobre.
Le 6 octobre à 20h, tout à fait. Vous pouvez tout retrouver évidemment sur le site de la ville de Conches, sur le Facebook. Et les places sont à prendre à la médiathèque. On continuera avec le 9 novembre, dans le cadre du mois du film documentaire, avec un documentaire qui s'appelle « Mon cœur voit le monde en noir, un amour à Kaboul ». qui traite voilà, d'une belle histoire d'amour impossible, puisque les deux familles appartiennent à des communautés différentes et que on ne peut pas avoir une relation, enfin ils ont une relation amoureuse, mais en tous les cas pas une relation officielle, puisque les familles s'opposent à cette relation. C'est un beau documentaire qui nous plonge dans une ambiance très particulière, qui est très éloignée évidemment de notre quotidien et de notre habitude dans une relation amoureuse. Mais c'est, voilà, je trouve que c'est un beau regard porté sur que l'amour n'a pas de frontières pour ces deux êtres, et en même temps il ne pourra pas aboutir puisque la femme a déjà est vendue, donc c'est le père qui décide. La famille vit avec cet argent, avec cette dot, et du coup cette femme ne peut pas mettre non plus aussi en péril le reste de sa famille. Enfin bon, à découvrir. On aura tout un cycle comme ça qui s'appelle Tous des oiseaux, et ça sera le premier court métrage qui ouvrira ce cycle Tous des oiseaux, puisque après viendra un film fiction, The Lunchbox, qui parle aussi d'une autre rencontre, et la pièce de théâtre qu'on aura la chance d'aller voir au Tangram. Mais on reviendra sur ce cycle, mais notez dans votre tête, dans votre agenda, voilà, ce premier rendez-vous en novembre et ce parcours de Tous des oiseaux qu'on va vous proposer. Le 18 novembre, on est fidèle au festival Celtes en Ouche, qui s'est installé depuis plusieurs années à Conches et qui propose trois soirées, pardon, le vendredi soir avec un cabaret, le samedi avec un fest-noz, et le dimanche, nous accueillerons trois ambiances sur un parquet, puisque nous aurons Fanny Aubray qui découvre les danses des Highlands toutes petites, et c'est un véritable coup de foudre, et elle a une renommée dans ce milieu pour cette danse. Donc elle viendra nous faire voilà, un spectacle et faire découvrir cette danse. Ensuite, nous aurons Swing Lame, des danses irlandaises portées par quatre danseurs, emmenées par Woody, qui a une renommée très importante en France. Et puis, nous aurons un duo avec Joanne McKeever et Christophe Saunière. Un joli duo sur l'île d'Arran. Enfin, elle vient de l'île d'Arran, et sa musique et la façon dont elle en parle, c'est vraiment la découverte de cette ambiance, de cette île. On imagine tout de suite ces paysages, voilà, naturels, avec cette brume qui se lève, etc. Vraiment, en découvrant cette musique, je me suis vraiment laissée porter. Donc, un vrai rendez-vous, 15h et 17h30 à la salle de spectacle avec les Celtes.
Voilà. Donc rendez-vous le week-end du 16, 17 et 18 novembre.
Tout à fait. On change complètement d'ambiance en décembre pour un mentaliste et illusionniste qui s'appelle, c'est la compagnie Rod Boom. Ils sont belges et ils nous proposent un spectacle qui s'appelle Évidence inconnue. Alors là, c'est vraiment... Il faut accepter de lâcher prise, c'est-à-dire comme peut le faire le mentalisme et l'illusion quand il est bien fait, c'est un petit peu subjectif, mais en tous les cas, quand il déjoue nos certitudes, c'est-à-dire qu'il faut accepter de pas comprendre comment ça se passe, parce que c'est très énervant, et lâcher prise, et à ce moment-là, il se passe des choses qui sont complètement... complètement inédite, complètement incroyable. Il y a une participation du public, il y a des choses qui se passent aussi à l'extérieur. Enfin, il nous emmène vraiment dans un univers très particulier. Et bon, je pense que vous allez entendre, enfin, sortir de cette salle en parlant beaucoup autour de vous et d'essayer de recouper les impressions de chacun. Oui, Leslie, tu voulais me dire quelque chose?
Non, j'ai hâte d'y être.
Ah oui, je pense que oui, c'est un bon moment à partager en famille. Hein. C'est vraiment un spectacle familial. Faut pas hésiter.
Pas le rater.
Tout à fait. Mais aucun.
Aucun, oui, c'est vrai.
On est d'accord. Aucun. Le 14 décembre, on aura l'Orchestre d'harmonie d'Évreux, C'est un orchestre avec une soixantaine de musiciens, enfin entre 60 et 80. Ils sont tous bénévoles, ce sont tous des passionnés. C'est leur loisir et ils ont voilà, le plaisir de jouer ensemble et d'avoir une grande composition. Ils viendront nous interpréter à la fois des morceaux classiques et puis à la fois des morceaux revisités de musique de film. C'est la première fois qu'ils viennent à la salle de spectacle, donc je pense que ça sera notre petit chocolat de Noël.
Exactement.
Le 19 décembre, le jour le plus court. Alors voilà, on avait envie en fait cette année, on revient là sur un petite animation du court-métrage. Avec Leslie, on avait envie d'abord de faire une passerelle entre nos deux structures, puisque souvent des livres sont adaptés au théâtre, souvent des films sont aussi disponibles à la médiathèque. Enfin, on avait envie de mélanger tout ça. Et c'est pour ça qu'on a fait le court-métrage avec Tous des oiseaux. Et puis là, on vous propose le jour le plus court. De l'année.
Exactement. Donc voilà. Ça correspond en fait au solstice d'hiver. Et donc en fait, c'est le jour le plus court. C'est pour. Il y a quelques années, en fait, l'Agence nationale du court-métrage avait lancé cette idée du jour le plus court avec du court-métrage. Ils sont revenus en arrière maintenant, c'est avant. Mais nous, on a décidé qu'on le faisait. Et donc pour le jour le plus court, en fait, on veut valoriser le court-métrage auprès. Alors effectivement, cette année, c'est auprès des plus jeunes, des enfants. Donc il y a toute une sélection de petits courts-métrages. Alors ils ne sont pas très longs. Hein. Je crois que le plus long doit faire une dizaine de minutes et encore.
Oui, c'est ça, parce que c'est une séance de moins d'une heure.
Voilà, c'est une séance qui dure 50 minutes à peu près. Il y a 7 films. Et donc, c'est pour montrer aux enfants qu'il y a aussi des films et des dessins animés qui sont très beaux, très poétiques et qui peuvent durer qu'une ou deux minutes.
Et puis, c'est surtout voilà, des ambiances différentes parce que c'est la découverte pour eux du film d'animation avec des dessins qui sont complètement différents. Et alors, l'ambiance, on a oublié de dire quand même, on parle de pas si monstre. Donc, voilà, on parle du monstre. Voilà. Alors, est-ce que le monstre, on l'aime bien finalement, on aime bien se faire peur. Donc, c'est tout, voilà, toute le souvenir d'enfance de oh, il me fait peur, mais en même temps, j'aime bien. Voilà. Donc, 7 petits courts-métrages et ça sera le mercredi 19 décembre. Ouvert à tous, entrée libre et gratuite. En janvier,
On est déjà là.
On se parlera des Misérables. Alors, œuvre majeure de Victor Hugo, évidemment. Et ce qui m'a plu dans ce spectacle, c'est que c'est du théâtre d'objets. C'est porté par deux jeunes femmes qui animent chaque personnage avec des figurines. Et elle nous raconte l'œuvre de Victor Hugo comme ça, à travers ses petites figurines. C'est hyper créatif. Enfin, moi, j'aurais adoré si on m'avait raconté Les Misérables comme ça. Franchement, je suis sortie de là avec les yeux écarquillés. Elles ont pris vraiment le nectar des Misérables. Et voilà, c'est créatif, c'est pétillant, c'est prenant. C'est un cocktail vraiment qu'il faut déguster. Il n'y a pas à dire.
Le rendez-vous est pris alors?
Le rendez-vous est pris, Les Misérables en janvier. Voilà pour la première partie de saison de la salle de spectacle. Évidemment, voilà, on vous y attend. C'est toujours un plaisir de partager ces découvertes, ces spectacles, ces moments, à la fois voilà, issus de livres, de chansons, du cinéma, la culture à la sauce du pays de Conches.
Exactement.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse. fixes amoureuses. Boum boum la supercute, un percute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber, ce n'est rien, puisqu'elle se relève. Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres.
D'écouter Arthur H avec la boxeuse amoureuse. Alors pour info, Arthur H, du coup, il est au Tangram au mois de novembre.
Au cube.
Au cube.
Au cube.
J'ai noté le Tangram.
Bah oui, mais c'est le Tangram.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est la salle du cube.
Bon, dans tous les cas,
quoi, on y arrivera, on y arrivera.
Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels.
Oui.
Macarons foudroyants.
Pas mal.
Tarte au venin de vipère.
Classique.
Clafoutis au curare.
Bon. Oh,
le pudding à l'arsenic.
Oh oui.
Nous recevons Jérôme Pascaud, premier adjoint à la ville de Conches, en charge des animations et des événements. Bonjour à vous, Jérôme Pascaud.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Alors, nous souhaitions échanger avec vous autour de la fête de la pomme qui se déroulera le 28 octobre. Et pour la petite histoire, c'est quand même la 10e édition de cette fête de la pomme. À quoi va ressembler la 10e édition ?
Effectivement, c'est le 10e anniversaire. Bon, il faut quand même savoir que la fête de la pomme, elle est née il y a très longtemps à Conches et qu'elle s'est exilée pendant quelques années à Évreux notamment, pour revenir finalement au Bercail, comme on dit, il y a 10 ans très exactement, effectivement, en 2008. Elle va ressembler à un bel anniversaire, cette édition, avec beaucoup de nouveautés. En fait, j'ai souhaité profiter de cette 10e édition pour opérer un virage, en fait, essayer de se renouveler complètement. Donc c'est vrai que chaque année on essaye de proposer de nouvelles animations. On était sur un format on va dire, assez bien rodé maintenant, hein, mais 10 ans, je pense que c'était pas mal de sortir de sa zone de confort et de proposer tout autre chose.
Alors, nous connaissons la fête de la pomme avec son marché local, avec des démonstrations, des animations, des démonstrations aussi de savoir-faire. Est-ce que nous retrouverons toujours cette base sur la fête de la pomme ?
Oui, bien sûr, il y a évidemment des quartiers, des moments immuables qui ne changent pas. Vous allez retrouver le plus grand marché fermier de la région, vous allez retrouver tout le quartier de pressage à l'ancienne, les dégustations de jus de pomme fraîchement pressées. Vous allez retrouver effectivement aussi tout le quartier lié aux animaux, à la nature. Tout ça, ce sont des moments qui ne changent pas. Ce qui va changer cette année, c'est que on a souhaité donner une ampleur encore plus importante à tout ce qui va toucher le vivant, l'animal, la rencontre avec les gens, les producteurs, et puis vous offrir aussi des spectacles en fait qui tournent autour de l'invitation à découvrir sous un autre regard notre ruralité. Donc c'est beaucoup plus tourné autour de l'humain, beaucoup plus tourné autour du vivant, du spectacle vivant même, et les enfants seront, je pense, les rois de la fête, les enfants et les parents, évidemment.
Oui, parce que quand on dit fête de la pomme, bien entendu, ce n'est pas exclusivement autour de la pomme que les choses vont se faire, c'est le symbole plutôt des produits peut-être du terroir, peut-être des produits locaux.
Oui, tout à fait, parce que évidemment la pomme c'est un des emblèmes de notre région, la Normandie, et la pomme c'est on peut faire beaucoup de choses avec, on peut la manger, on peut la boire, on peut la distiller évidemment, le cidre, le pommeau, le calvados, il y a plein de bonnes choses autour de la pomme, mais par extension on souhaite mettre vraiment les producteurs et tous les savoir-faire de notre région. La Normandie, c'est beaucoup de savoir-faire, c'est beaucoup d'éleveurs, de producteurs qui travaillent, qui font un métier passionnant et qui méritent vraiment qu'on les montre sous un autre jour. Alors, il y a beaucoup de marchés fermiers hein, dans notre région, dans l'Eure en particulier, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on montre aussi les métiers, on montre aussi l'envers du décor, on montre aussi comment les producteurs travaillent. Donc, c'est vraiment une approche transversale et englobante qu'on veut montrer, qu'on veut partager à la fête de la pomme.
Avec cette notion de valorisation aussi de la proximité, de la ruralité et puis de ce fameux savoir-faire que nous évoquions il y a quelques secondes.
Oui, tout à fait, parce que à Conche, on croit beaucoup finalement à cette approche humaniste, circuit court, rencontre avec les producteurs. Je pense que plus on jouera notre rôle de d'aiguillon pour apprendre aux gens à mieux consommer, à consommer local, à consommer ce qui se passe sur son territoire. Bien souvent, les consommateurs ne savent pas qu'on a des producteurs de viande, de pain, de yaourt à proximité de chez soi et qu'ils ont eux aussi beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre et à nous faire découvrir qui sont absolument magnifiques.
Et justement, les rencontrer, c'est en savoir un peu plus et s'intéresser autour des produits qui sont faits tout près de chez nous. Et c'est l'occasion, la fête de la pomme, de rencontrer des producteurs et de pouvoir échanger avec eux. J'allais dire, je l'imagine, non, je le sais, on peut échanger avec les producteurs. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi, en tant que consommateur, de pouvoir aller un peu plus loin que le geste d'achat.
Oui, tout à fait, parce que là, on est dans une relation directe. Enfin, la fête de la pomme, c'est vraiment un écrin où vous allez découvrir énormément de choses. Au-delà des producteurs, vous allez découvrir des métiers. Au-delà des métiers, vous allez découvrir aussi toutes les variétés de pommes avec l'association de pomologie de Normandie, par exemple. Au-delà de ça, vous allez découvrir aussi comment on déguste un cidre avec la confrérie des goûteurs de cidre. Vous allez découvrir comment on distille et comment on prépare le pommeau ou le calva ou comment on presse la pomme à l'ancienne. Enfin, voilà. C'est un petit peu tout ça, c'est toute la Normandie, c'est l'essence même de notre identité normande qu'on veut partager.
Il y a un écart qui est fait, enfin il y a un écart, en tout cas il y a un pont qui est fait entre justement cette tradition des savoir-faire ancestraux pour certaines choses comme le pressage ou la distillation et puis des choses beaucoup plus modernes. En fait, c'est vraiment ce pont, en tout cas cette sensation sur cette fête de la pomme qui est un pont entre ce qu'on pourrait appeler la tradition et puis des choses contemporaines et d'aujourd'hui.
Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, on est quand même sur une fête plutôt traditionnelle, à vocation un peu nostalgique. Tous les bénévoles sont costumés. On essaye de rendre en fait cette ambiance un peu à l'ancienne, comme on dit, qui plaît tant à tout le monde. L'idée étant aussi de se couper un peu du temps et un peu du monde et d'offrir une sorte de parenthèse enchantée. Mais évidemment, on a des produits modernes, on a des choses qui répondent aujourd'hui aux normes de 2018, je dirais. Et vous voyez comment les uns et les autres se sont adaptés avec les nouveaux moyens de production. Et je vous invite vraiment à y venir pour justement échanger avec les uns et les autres, ces acteurs de la ruralité, ces acteurs de la Normandie, pour voir comment on fait pour produire de bons yaourts, de bonnes choses à manger et à partager entre amis et en famille.
Puis justement, c'est l'occasion d'aller aussi venir faire plaisir à ses papilles, de se promener sur cet espace de la fête de la pomme, et pourquoi pas même se restaurer le midi, parce que c'est voilà, les stands qui seront présents, bah ça sort aussi de l'ordinaire, de ce qu'on peut peut-être rencontrer dans notre quotidien. C'est l'occasion aussi d'aller se faire surprendre par ce qui sera proposé.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'on veut proposer, c'est vraiment un programme complet. C'est-à-dire que quand vous venez à la fête de la pomme, en général, vous y passez pas une heure, hein. Vous y passez un bon moment de la matinée à l'après-midi. Vous avez tout au long de la journée des moments forts, des spectacles à partager. Je vous le disais, en plus, cette année, un accent tout particulier sur les spectacles vivants. Donc, bah oui, vous pouvez venir en matinée, faire votre marché, vous installer dans un espace de restauration, et puis profiter de votre après-midi avec les enfants. Il y a énormément de choses à faire à la fête de la pomme, et l'idée, c'est vraiment de d'avoir quelque chose de complet dans un écrin qui est absolument magnifique et unique dans notre département. C'est l'arboretum de Conches qui se prête vraiment au jeu, quoi.
Eh bien justement, le rendez-vous est pris, alors ce sera le 28 octobre à l'Arboretum de Conches. C'est la fête de la pomme qui vous invite. Entrée gratuite, hein, bien entendu, ça se souligne. Et puis ce sera pour cette 10e édition où on invite tout le monde finalement à venir sur cet espace de l'Arboretum. Merci beaucoup à vous, Jérôme Pascaud. Je rappelle, vous êtes le premier adjoint de la ville de Conches, en charge de l'animation et des événements. J'imagine qu'on pourra vous retrouver sur le site à cavaler dans tous les sens afin que tout se déroule pour le mieux.
C'est un peu ça, je serais ravi de vous accueillir. Merci à vous.
Très bien, merci beaucoup.
Eh bien justement, après notre panier rempli de pommes, on va avoir plein de choses à ajouter pour ce mois-ci. Alors, précipitez-vous à l'exposition Éclat de verre qui ferme le 30 septembre au musée du Pays de Conches. N'hésitez pas, c'est une très belle exposition. Il faut vraiment, si vous ne l'avez pas vue, il faut passer par là.
Il ne reste que quelques jours du coup.
Tout à fait. Ensuite, on va aller voir un petit peu chez nos voisins aussi. Il y a une scène ouverte au Silo le 29 septembre, donc entrée libre et gratuite. C'est à 20h30. Si vous avez un petit talent à faire découvrir, je crois que c'est le moment. Il faut pas hésiter. Le 4 octobre, il y aura Alka qui va se jouer au Tangram, le cadran. Vraiment des acrobates de Tanger. JC hoche de la tête, allez-y. Oui, il faut y aller.
J'ai mon ticket déjà.
Moi aussi.
Et du coup, c'est le premier spectacle de la saison, le tout premier.
Oui, pour le Tangram, oui, ça sera leur entrée en matière et une belle entrée en matière. Ensuite, à la Maison des Arts, on vous propose une exposition photo du 5 octobre au 11 novembre. Alors, une expo photo un petit peu avec un regard particulier, puisqu'il s'agit d'un partenariat avec la Maison de l'Europe. Ce sont des Européens qui ont photographié le patrimoine normand, pour une partie. Et pour l'autre, ce sont des Normands qui ont photographié le patrimoine européen. Je pense que ça devrait être intéressant, et le regard porté les uns et les autres sur le patrimoine est toujours un plus. Nous aurons un apéro littéraire, c'est ça Leslie ?
C'est ça, bah oui. Qui dit rentrée littéraire dit cette année apéro littéraire. Et le principe du coup, c'est que Valérie vienne faire un petit tour à la médiathèque et donc vienne nous présenter le 6 octobre à 11h30 les nouveautés de la rentrée. Donc juste avant, nous, on a le premier club lecture adulte de l'année, donc à partir de 10h. Et après, Valérie nous présente les nouveautés, et puis moi également. Donc les coups de cœur, et on aura eu le temps de lire encore un tout petit peu, et encore une dizaine de jours de lecture, donc on aura bien encore quelques livres à présenter.
Donc on va grignoter les pages des bouquins de la rentrée.
Non, on ne mange pas les livres, mais effectivement,
ah bon,
c'est une consommation différente.
Alors, on partira aussi pour le 13 et 14 octobre, pardon, la fête de la science. Et là, au musée du verre de Conches, il y aura d'abord l'entrée du musée est gratuite ces jours-là. Et il y aura une démonstration faite par une verrière qui composera sous vos yeux des perles de verre.
Beau programme.
Tout à fait. Et on voulait vous parler aussi également d'une opération qu'il y a en ce moment sur notre histoire collective. Leslie, tu voulais en dire un petit mot ?
Oui, en fait, c'est la préparation de la prochaine Biennale Photo, donc qui aura lieu à l'automne prochain. Alors effectivement, on s'y prend bien en avance, mais le projet en vaut le coup, puisqu'en fait, on cherche à faire une collecte de photographies. Donc ce sont les Conchois ou habitants du pays de Conches qui ont des photos anciennes, des photos de leur famille. Donc et ça, on cherche à les avoir pour retracer la vie familiale, le travail, les événements marquants d'une famille et d'autres. Et donc on accepte les photos jusqu'aux années, fin des années 70, donc 1979-1980. Et donc, si vous en avez dans vos tiroirs, c'est l'occasion de les ressortir. Elles seront numérisées, enregistrées, du coup, elles seront versées au fond d'archives de la ville. Elles vous seront restituées par la suite et après, elles serviront à faire une grande expo photo sur la vie des habitants du pays de Conches. Donc, n'hésitez plus à aller chercher dans les commodes, dans les armoires, dans les tiroirs, tout ce que vous pouvez trouver. Si jamais vous pensez que ça peut nous intéresser, vous pouvez passer, les déposer à la bibliothèque, à la médiathèque ou bien au musée du Verre. Il y aura quelqu'un pour vous accueillir et pour vous guider dans cette démarche.
On en reparlera certainement, mais voilà, on voulait vous l'annoncer de façon à ce que vous ayez le temps d'aller fouiller effectivement dans tous ces tiroirs, armoires et autres secrets qui nous permettraient d'avoir un témoignage photographique sur Conches.
C'est ça, oui, vous avez le temps, puisqu'en fait, ça va durer quelques mois, au moins jusqu'à la préparation.
Mais ça, il ne faut pas le dire, parce qu'après, les gens, ils traînent, tu sais, on marque et puis on se dit, ah, j'ai toujours le temps de le faire. Non, c'est maintenant, parce que plus on en aura, mieux ce sera.
On leur rappellera, il n'y a pas de problème.
Voilà, je crois que ça touche à sa fin. Merci à Valérie Fleurot.
Merci.
Merci Leslie, merci JC, merci Jérôme Pascot. À très vite pour la prochaine émission Tambouille.
La prochaine, c'est calé pour le 30 octobre. C'est fin du mois.
Eh bien, c'est parfait. Merci à toi, Adèle.
Merci, bonne chance.
Au revoir.
Tu couperas ma fin. Yes.
Le vivre ensemble, pour moi, est un peu plus beau, fort, que deux, trois mesures dites de discipline ou de règlement intérieur. Et le vivre ensemble, ça passe aussi, et peut-être même surtout, par la culture. La plus belle arme qui soit pour lutter contre le sentiment que l'autre n'est pas pareil que moi. Je ne te comprends pas, donc je ne t'aime pas. Alors que la culture, c'est je ne te comprends pas, donc je vais m'installer et je vais t'écouter. Parce que ça m'intéresse. C'est ça la culture.
Job.
Sometimes an extremely dangerous practice.
Sometimes. It can't be the conscience of the whole world.